Alors, sur cet ordinateur, oui, a priori, ça s'enregistre. Alors, je ne sais pas
Oui,
comment.
ça apparaît sur nos ordinateurs aussi.
D'accord. Je ne sais
Ça,
pas où.
ça ne dérange personne.
Ah oui.
Ah, je sais pas.
Ah ben, faut payer des royalties.
Hein.
Bon, je vois pas de mal à ce sujet-là.
Bah, écoute, je veux pas, comme je suis en train d'enregistrer et que c'est moi
Non, 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 bien sûr.
On va
Entre
continuer à
guillemets, qui
chercher.
guide la réunion, je ne vais pas me lancer à aller faire des recherches sur mon ordi. Étienne qui arrive. Anne Dumière, on voit que vos cheveux qui sont très beaux, mais voilà, c'est.
Bonjour.
Isabelle.
Isabelle et Bernadette.
Bien.
Faut pencher un peu plus, on vous voit pas complètement. Isabelle et Bernadette, faut centrer un peu mieux. Très bien. Oui, encore un peu. Très bien.
C'est pour voir si
Merci.
toi.
Ah, voilà, toutes les deux.
Qu'est-ce que c'est la croix,
Oui, je
la première page?
remontre la première page.
Denis, qu'est-ce que c'est?
Bonjour à tous. Nous abordons aujourd'hui le cours 5.
Alors, c'est prendre une rentrée en Poitiers, ah bah oui.
Nous sommes 15.
Bonjour.
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 Anna et
Ça va toutes les deux. Non, c'est pas là.
ça marche. Non, vous voyez, je reviens à 28 septembre.
Le fichier, Elisabeth, avec l'enregistrement, je ne sais pas comment je le récupérerai. Je vous l'envoie à vous, je l'envoie
Comment ça
aussi.
référence? Vous me l'envoyez à moi, je vais l'envoyer à la personne. C'est Sarah qui me demande ça.
Sarah Niquez?
Oui.
Ah d'accord, parce qu'on était avec elle ce matin.
Voilà, elle me dit qu'elle ne peut pas y assister.
D'accord.
Sarah. Nickel, oui, c'est
Oui,
ça.
tout à fait.
C'est ça.
On avait réunion de groupe ce matin et on était avec elle
D'accord.
et elle ne m'a rien dit donc.
Ne lui dis pas tout.
Ouais. Je vous l'enverrai par WeTransfer.
D'accord.
Hein, vous recevrez un WeTransfer.
Je ne sais pas comment ça marche, mais je me
Ça marche, c'est très facile, hein. Je vous envoie un WeTransfer, il suffit d'accepter, de télécharger. Il
D'accord.
n'y a pas de compte à ouvrir, il n'y a rien du
Même
tout.
quand on est très très mauvais en informatique,
Très,
on ne sait pas. D'accord.
oui, très, 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 très mauvais, ça marche aussi. Par contre, ça a une durée de vie d'une semaine.
Ok,
Donc,
je lui dirai.
faut vraiment le charger quand il arrive.
D'accord. Ok.
Je pourrais la mettre en copie, comme ça, s'il y a
Ah bah
quelqu'un qui a
voilà.
demandé.
Ah bah voilà.
Non, mais
Voilà.
je vous le mets aussi, comme ça, s'il y a d'autres demandes, et je mettrai aussi à Anne. Aussi.
Merci beaucoup, Pascal. Merci. Merci.
Ouais.
C'est bien
Quand
comme ça.
j'envoie un, je peux envoyer à deux, trois.
D'accord.
Donc il n'y a pas de souci.
On peut
Bon.
commencer, non?
J'ai l'impression qu'on est stabilisé à 15 là pour le moment. Depuis un petit moment, donc on peut effectivement, à mon sens, démarrer.
Pascal, vous voulez prendre la parole en premier?
Non, moi j'ai pas de. Les autres fois, je vous ai plutôt posé mes questions en amont.
Oui.
Bon, là, simplement, je vais dire, pour moi, quand on me parle de déification, la phrase qui me vient à l'esprit, c'est Saint-Irénée.
Oui.
Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu. D'ailleurs, je crois que vous la citez, mais
Ah oui, bien sûr.
pour moi, c'est celle qui s'impose. Alors, effectivement, les autres ont dit à peu près la même chose, d'ailleurs, hein.
Tout le monde a repris ça. Tout le monde a repris ça. J'ai quand même fait un audio pour finir le cours la personne et la communauté avec ce magnifique texte de Pascal. Vous l'avez écouté, celui-là aussi ?
Oui.
Ouais. Le premier. On va peut-être finir par ça. On va commencer par ça pour bien clore ce sujet-là.
C'est quelque chose qui a été ajouté récemment ?
Oui, en fait, il y avait deux audios et le premier, c'était la suite et la fin du cours sur personnes et communautés. Ou qu'est-ce que être humain veut dire ?
Moi, je n'en ai écouté qu'un, donc je n'ai pas fait attention.
Bon, bah, simplement, il y a ce fameux texte de Pascal qui dit « Qu'est-ce que le moi ?» Si je me mets à la fenêtre pour voir des passants, je ne peux pas dire que... Si quelqu'un se met à la fenêtre pour regarder les passants, je ne peux pas dire que ce soit moi en particulier qui veuille regarder. Et il dit, qu'est-ce que le moi ? J'aime quelqu'un pour sa beauté. Est-ce que je l'aime vraiment ? Non, parce que sa beauté va disparaître s'il attrape la petite vérole. Est-ce que je l'aime pour ses qualités spirituelles, pour son intelligence et sa mémoire ? Non, je ne l'aime pas vraiment pour cela, puisqu'il peut perdre sa mémoire et son intelligence sans se perdre lui-même. Et sa conclusion, c'est du Pascal, il dit « On n'aime donc personne que pour des qualités empruntées. » Et il veut montrer dans ce texte, en fait, c'est un débat avec Descartes, il veut montrer que, en fait, ce qui reste d'une personne, c'est sa substance. Mais qu'une substance, si on lui enlève tous les accidents et tous les traits caractéristiques qui font d'une personne une personne, la substance en tant que telle ne parvient pas à définir la singularité de la personne humaine. Tout le monde me suit ? Et en fait, bon, Pascal a une vision un peu tragique, c'est un janséniste. Ce à quoi je réponds, en fait, quand on aime quelqu'un, on n'aime pas quelqu'un en lui disant « reste tel que tu es », mais c'est une sorte de pari, c'est-à-dire on l'aime en sachant qu'il va évoluer et en sachant que ses qualités ne vont pas permaner et qu'elles sont susceptibles d'évoluer au même titre que la personne elle-même. Donc je réponds ça à Pascal et c'était aussi pour dire que la substance ne suffit pas à définir la personne, puisque ce qu'il a défini, c'est l'ensemble de ses qualités et le fait qu'elle est aussi en relation et en perpétuel changement. Que chacun d'entre nous a une histoire qui est personnelle et qui nous définit. Et c'est ça le but de notre voyage sur Terre, d'ailleurs, c'est... qu'est-ce qu'on fait avec ce qui nous arrive et qu'est-ce qu'on fait avec ce que l'on est, comment on fait pour s'acheminer progressivement vers ce que Dieu nous demande d'être finalement, vers nos vocations propres. Donc c'était pour critiquer un peu Pascal, pour dire que l'homme précisément se définissait par une histoire et son histoire personnelle, Elle se manifeste, elle s'élabore au fur et à mesure des rencontres, des relations et de la vie elle-même. Voilà. Bon, c'est assez banal hein, de raconter tout ça.
Vous remarquerez, petit aspect pratique, j'ai coupé les micros de tout le monde parce qu'on entendait des bruits de fond. Donc, si vous voulez prendre la parole, il faut que vous réactiviez votre micro, mais par défaut, je mets tout le monde en micro coupé, y compris moi.
D'accord. Je finis là-dessus. Et c'est aussi l'idée, alors ça, à l'époque de Thomas, Thomas d'Aquin, 13e siècle, comme on définissait la personne en tant que substance rationnelle, on n'avait pas vu cet aspect relationnel qui est indispensable, à notre constitution. Et pourtant, Thomas reprend Aristote et il montre bien que sans amis, personne ne peut être heureux et que la constitution de la personne se fait aussi par échelonnement progressif de nos mises en relation, la famille, les amis, la société, la communauté politique, le travail, et maintenant élargir ça à la planète entière. Voilà. La théologie actuelle met l'accent surtout là-dessus, en particulier une philosophie qui s'appelle le personnalisme avec Emmanuel Mounier. Mais je vous en ai pas parlé parce que je peux pas parler de tout. Je trouve que les cours sont longs déjà. Voilà. Alors je m'arrête de parler et si vous avez des questions, Pascal remet vos micros.
Chacun peut le remettre, hein. Vous êtes totalement libre de le remettre.
Ah d'accord.
En haut à droite, vous avez, enfin chez moi c'est en haut à droite, ça s'appelle c'est une petite case bleue.
Oui, Elisabeth, juste pour comprendre, parce que j'avais pas repéré qu'il y avait cette deuxième partie de cours.
D'accord.
Bah oui, on n'a pas été on
Pascal,
a pas été
plus au courant. Je pense que l'environnement n'influe pas sur l'individu, c'est ça?
Ah si, justement. L'environnement fait partie de l'histoire de l'individu. On ne se construit que en relation avec l'environnement.
Oui, mais ça, c'est ce que pense aussi Pascal ou il ne pense pas ça?
Alors, non, Pascal n'a pas cette idée-là. Pascal,
d'accord, voilà, c'est ça.
Pascal, il est d'emblée mystique, donc il ne développe pas ça. Il montre juste. Le but de Pascal, c'est de dire, voyez, qu'est-ce que vous êtes? Bah, vous n'êtes rien finalement, et seul Dieu peut vous combler. Il dit, je mets l'homme en contradiction jusqu'à ce qu'il reconnaisse qu'il est, dit-il, un monstre incompréhensible. Et quand il aura perdu cette volonté d'avoir une identité, alors il pourra recevoir la grâce divine. Donc, c'est, lui, il est plutôt du côté de la mystique. Maintenant, d'accord. si on est du côté plutôt de la constitution et de la construction de la personne humaine, on est obligé de dire que l'environnement a un impact.
Oui, oui, oui.
Hein? Ah bah oui.
Ok. Oui. Voilà.
Merci. Ou même ce que disait Sartre ne dit pas toujours des bêtises, il disait l'homme a la liberté de faire ce que l'on a fait de lui. C'est-à-dire que l'homme naît toujours sur un fond de déterminisme de toute façon, génétique, familial, biologique, enfin biologique ou génétique, sur des choses. Par contre, on a la liberté de faire quelque chose avec ça. Alors, c'est une vue un petit peu optimiste, qui ne prend pas assez en compte, à mon avis, aussi les fragilités des personnes. La fragilité, justement, c'est le divin qui aide à la porter, je crois. Je crois. Il y a d'autres questions sur ce sujet? Non?
Qu'est-ce qui dit que le moi est finalement haïssable, hein, vous parlez de ça dans votre cours. Le moi est haïssable, seul Dieu est aimable.
Oui. C'est Pascal.
Ah, c'est Pascal.
C'est Pascal. Recitez ça. Moi, si vous avez le temps, lisez Pensée de Pascal. C'est sublime. C'est sublime. Ce que veut faire Pascal, c'est en fait montrer que tous nos attachements égoïques, tout ce qui relève de l'orgueil, de la vanité, de ce à quoi on s'agrippe viscéralement par vanité finalement, pour se construire une identité ou pour pire, pour paraître aux yeux des autres, il dit que c'est haïssable parce que ça ne fait pas, ça met une, ça institue une coupure entre Dieu et soi. C'est-à-dire que au lieu de se préoccuper de l'image que l'on doit donner, qu'on aimerait donner aux autres, ce qu'il appelle les charges et les honneurs, tout ça, ce n'est que pure vanité, et qu'on ferait mieux, en fait, de se détacher de son propre moi pour être tout entier le réceptacle de Dieu. C'est ça. Donc, c'est dans une optique mystique. Mais je lui retorquerai qu'il ne faut pas confondre le psychique et le spirituel. C'est-à-dire que ça, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent René Guénon, mais bon, c'est un penseur qui n'est pas chrétien, mais c'est un penseur assez intéressant. Et il n'y a pas que lui qui montre ça. Mais pour accéder au détachement de soi, il faut quand même avoir une construction. En termes psychanalytiques, il faut avoir une solidité narcissique. C'est-à-dire que le spirituel ne peut pas venir remplacer le psychologique, c'est-à-dire ne peut pas venir combler un manque d'ordre psychologique. Il est indispensable d'avoir, d'être aligné avant de vouloir se détacher de soi. Sinon, c'est n'importe quoi. On tombe dans les sectes, on est anéanti. Vous comprenez ce que je veux dire ? Hein ? Là, c'est deux ordres différents. D'abord, ce que dit Thomas d'Aquin, c'est très intéressant. Il dit « La grâce ne détruit pas la nature, mais vient la perfectionner. » Il faut d'abord que notre nature soit constituée pour que ensuite, si on le souhaite et si c'est notre vocation, se défaire de soi, mais chaque chose en son temps, quoi. Alors ça fait le pont.
Oui, ça rejoint un peu le fait de se connaître soi-même, pouvoir comme condition préalable à rencontrer Dieu.
Ariane, c'est exactement ça, oui. Exactement ça, oui. Ouais. Pascal, on ne vous entend pas.
Ce que vous dites, c'est qu'il faut avoir constitué sa personnalité et son identité pour pouvoir s'en détacher.
Je crois, oui.
Tant qu'elle n'est pas constituée, on ne peut pas se détacher de quelque chose qu'on n'a pas. C'est un peu ça, quoi.
Je crois, oui. Alors, ça, c'est ma pensée personnelle. Hein. Bon, c'est mon expérience, c'est ce sur quoi j'ai travaillé. Mais une personne qui a des déficits narcissiques, alors au sens psychologique du terme, hein, c'est-à-dire des déficits de construction de son identité. Je pense aux enfants maltraités, bon, vous voyez, où ça se joue dans l'enfance. Quelqu'un qui aurait une personnalité fragilisée dès le départ, si tout d'un coup elle veut combler des failles par la spiritualité, il y a une confusion des ordres là-dedans. Ce qu'on peut demander, c'est la grâce pour être la grâce d'éléments de résilience. Mais ça ne se confond pas.
Ouais. C'est pas suffisant.
Non, c'est pas suffisant. Quand j'étais à Lyon, j'étais allée visiter Ars, là où habitait le curé d'Ars. Il y avait sa maison était il y avait des petites planches en bois. comme des phylactères, quoi, où il y en a, sur l'une desquelles il y avait marqué « Ne demande pas de miracle ». Et j'ai eu du mal à comprendre ça. Mais ne me demande pas de miracle parce que, oui, nous avons la liberté et nous devons d'abord, par cette liberté, essayer d'être des personnes alignées, solides, avant que de vouloir tout recevoir de Dieu. Ça, c'est pas possible. On peut pas tout demander à Dieu.
C'est ce que résume le « Aide-toi, le ciel t'aidera », non ?
Un petit peu, oui. Bah oui, finalement, c'est ça, oui.
Finalement.
Et oui.
On peut dire que c'est probablement le chemin d'une vie, en fin de compte.
Bah oui. Nous sommes en chemin, hein. Nous sommes en chemin, oui. Qui peut prétendre être arrivé ? Non.
Mais alors, que répondre à des jeunes qui ne peuvent pas encore avoir fait ce chemin-là ?
Qu'ils sont en chemin, justement. Que répondre à quelle question, par exemple ? Soyez plus précise.
Non.
Oui. À quelle question ?
À celle de... Attends, je ne sais pas où j'en suis.
On vous entend.
Bon, d'accord. Par exemple, à celle de ce dont vous parliez, là. Aide-toi, le ciel t'aidera. Si on lui dit le coup des miracles... Quand même, on est baigné culturellement, on est baigné par Notre-Dame de Lourdes, on est baigné par Fatima, on est baigné par Padre Pio. Bref, tous les miracles de la terre, a priori, il vaut mieux le demander. Hein. Mais si on vous dit tout d'un coup, finalement, ne le fais pas parce que tu es en chemin, il faut d'abord que tu sois construit pour savoir si vraiment tu pourras accéder à cette perfection, on va dire, hein, ou ce perfectionnement, ça veut dire que jeunes, ils n'ont plus rien à... C'est pas très clair ce que je vous dis.
Si vous n'êtes pas clair, c'est que moi, je n'ai pas été suffisamment claire. Hein?
Bon, alors en route.
Alors, je reformule. Lorsque le curé d'Ars dit « ne demande pas de miracle », il ne dit pas « ne prie pas » ou « ne demande pas au Seigneur l'aide ». C'est ce que la dernière fois Pascal disait, on peut demander au Christ la force d'avancer, mais si on demande un miracle, ça veut dire je supprime tous les efforts qu'il y a à faire. Donc le miracle doit rester quand même une exception. J'entends pas. Faut mettre votre micro.
J'ai rien à dire. Je commente pour moi, en fait, pas pour les autres.
Ah, d'accord.
Pardon. D'accord. Mais je dis oui, évidemment qu'un enfant. Moi, je suis encore à l'âge où je suis dans la construction de mes adolescents ou de mes jeunes adultes, on va dire. Donc, en fait, je ma réflexion, c'est ça. Bien sûr que je leur dis bats-toi et que personne ne le fera à ta place. Mais il n'empêche que je peux quand même lui dire aussi, demande au ciel de te donner la force d'accéder à ce à quoi tu aspires.
Bah, c'est exactement ce que je veux dire. Hein.
Je suis vraiment bouchée. Hein.
C'est exactement ce que je veux dire. Le miracle, c'est une intervention naturelle dans le naturel.
D'accord.
Il y a une chose de dire, Seigneur, guéris-moi. Et l'autre chose, de dire « Seigneur, donne-moi la force. Le Seigneur est mon berger. Hein » Et puis, on peut lui dire « Seigneur, guéris-moi, ça n'empêche pas. » Peut-être que le curé d'Ars est un peu excessif. Mais la grâce est faite pour nous accompagner dans notre cheminement et trouver la force de faire ce cheminement et pour nous éclairer dans ce cheminement. Après, si le miracle arrive, bah, tant mieux. On vit tous des certains miracles, hein. Pas spectaculaires, mais... Je me fais mal comprendre. On ne vous entend pas. Hein.
C'est clair, hein. Non, c'est clair.
Ah oui, je crois, hein. Je crois. Oui.
En fait, être toi le seul t'aidera, c'est que ta volonté rejoigne la mienne, dit Dieu, et qu'ensemble on y arrive. C'est ce qu'on a vu dans le cours d'aujourd'hui.
Oui, c'est notre.
Parce que c'est ça les volontés. Oui.
Oui.
La volonté commune.
Oui, oui. Oui, c'est ça la volonté commune chez Saint Bernard, exactement. Mmh. Alors, est-ce que le cours sur Saint Bernard vous a intéressé? Répondez-moi honnêtement.
Oui.
Ah oui, c'est passionnant.
C'est beau, hein?
Ah oui, c'est passionnant.
Passionnant, oui, c'est très intéressant.
Ah oui.
Oui. C'est de ça, alors. C'est...
Moi, j'en retiens le mot humilité.
Oui.
C'est ce qui me. Ce que j'ai retenu. Et j'attends de vous d'autres lumières.
Sur Saint-Bernard?
Non, sur le texte, sur Saint-Bernard. Je suis allée à Citeaux.
Ah oui, oui.
J'ai passé une soirée à Citeaux, c'est extraordinaire, c'est vrai.
C'est-à-dire que c'est un saint merveilleux, hein. on retient de lui l'aspect politique, mais enfin quand même, d'abord ces textes sont merveilleusement bien écrits, c'est simple, il n'y a pas de difficulté technique à lire Saint-Bernard, et ensuite il y a une harmonie, une continuité entre comment on fait quand on est débutant, puis progressivement, quand on commence à faire le chemin, jusqu'à... Vous voyez, lorsqu'il parle des trois amours, l'amour de soi, oui. L'amour de Dieu, qui est amour, l'amour mercantile, parce qu'on demande à Dieu, et puis finalement, l'amour de Dieu pour Dieu lui-même, pour la volonté de Dieu, ce qu'on dit dans notre Père, que ta volonté soit faite,
oui.
Et ce que dit le Christ, sur la croix, Père, ta volonté et non la mienne. Ça, c'est d'une grande beauté.
C'est vrai. Alors,
oui, Françoise, pardon.
C'est vraiment se fondre. C'est vraiment se fondre dans Dieu. Oui, c'est le choix de disparaître. C'est l'osmose. Enfin, je ne sais pas comment exprimer.
C'est une union, mais sans confusion. C'est-à-dire que la volonté divine, par grâce, s'épanche dans l'âme, mais par contre, l'âme humaine ne s'épanche pas en Dieu, c'est-à-dire l'âme humaine ne devient pas identique à Dieu. Parce que sinon, ça serait faire disparaître la personne. Et ça, c'est hérétique. Hein, ça serait hérétique. Mais ça veut dire que, en fait, l'homme s'est tellement, a tellement développé avec la grâce. Hein. La grâce est toujours la vertu d'humilité que Dieu ne peut pas faire autrement que de s'épancher dans cette volonté qui est tellement aimante. Ce qui fait que la volonté divine et la volonté humaine forme une volonté commune jusqu'à ce qu'en fait nous soyons les fils adoptifs de Dieu et que nous disions ce que le Christ disait par nature, parce qu'il était fils par nature, quand il disait que ta volonté soit faite, nous on dit par grâce. Et on en revient à Saint-Irénée. Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu et non pas se fasse Dieu. Parce qu'on n'est pas dans un système de gnose et on n'est pas dans un système philosophique ou néoplatonicien. On est vraiment dans un système où là, Dieu aime à ce point ses créatures que celui qui aime vraiment Dieu, ben Dieu ne peut pas faire autrement que venir l'habiter, que de lui envoyer son Esprit Saint. Ça, c'est d'une beauté sans nom. Et vous voyez, je vous le disais au début du cours, hein, c'est surtout les pères grecs qui sont à l'origine de cette idée de divinisation. Avec Irénée, avec Athanase, avec d'autres. Mais les pères grecs ont beaucoup travaillé ça. Et à partir aussi des sources néo-testamentaires. Hein. Alors, les sources néo-testamentaires ne parlent pas de divinisation, mais ils parlent de filiation. C'est-à-dire que nous sommes appelés à être fils à la suite, à être fils adoptif, c'est ce que dit saint Paul, adoptif. À la suite du fils par nature, du fils premier-né. Mmh. Bon. Seulement, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu entre-temps Saint-Augustin, que j'aime beaucoup par ailleurs. Mais Saint-Augustin, en insistant plus sur la grâce médicinale, c'est-à-dire sur la grâce qui enlève le péché, en insistant plus sur... Il a insisté sur la grâce, mais il a insisté sur la grâce parce qu'il a insisté sur l'homme pécheur. Et il a, en fait, orienté l'Occident vers une tradition qui a beaucoup, beaucoup insisté sur le péché.
Le péché, oui.
Voilà. Alors que l'Orient et la tradition orthodoxe a été beaucoup plus influencée par les pères grecs, Athanase, Maxime le Confesseur et d'autres. Et l'Orient a beaucoup plus développé la théogénésie, la divinisation, la naissance de Dieu en l'âme. Vous allez retrouver chez Maître Eckhart au prochain cours. Et ça a quand même cette idée de l'homme, que l'homme puisse, parce que Dieu l'aime inconditionnellement, parce que Dieu veut que nous soyons des fils, ses fils adoptifs. La grâce ne se résume pas à être une grâce médicale. La grâce ne se résume pas à faire en sorte que nous supportions ou que nous soyons lavés de nos péchés. Elle va plus loin. Elle est aussi une grâce qui nous permet de se rendre le plus possible semblable à Dieu. C'est magnifique, ça. C'est d'une beauté.
Est-ce que vous parlez des pères grecs? Est-ce que ça a quelque chose à voir avec la richesse du vocabulaire grec qui a trois mots complètement différents pour dire aimer? Le premier niveau de l'amour, enfin aimer, j'aime les frites, voilà, donc c'est j'aime,
Eros.
Voilà, Eros, c'est très personnel, c'est très auto-centré. Hein. Philia, qui est un amour déjà plus tourné vers l'autre, jusqu'à agapé, qui est l'amour total. Est-ce que ça correspond aux trois gradations que vous avez évoquées? Eros, philia et agapé.
Alors, les pères grecs distinguent surtout, il faut lire, enfin, il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose là-dessus qui s'appelle Andros Nigren, N-Y-G-R-E-N. Son livre, c'est Eros et agapé. La philia chez les Grecs, c'est plutôt conçu comme la vertu qui permet l'amour de l'autre, mais au sein de la communauté politique. Elle est très développée chez Aristote. La philia, c'est l'amour qu'on porte à l'autre, l'amour au sens d'un amour de camaraderie, d'un amour de respect qu'on porte à l'autre et qui cimente la communauté des hommes. Eros, c'est le penchant charnel qu'on a pour les frites ou pour autrui. Et agapé n'apparaît qu'avec les écrits religieux et néo-testamentaires développés par saint Paul. Et agapé, c'est l'amour de charité. Donc, c'est l'amour avec lequel on aime son prochain, mais c'est un amour de grâce, c'est-à-dire que c'est un amour qui dépasse encore, qui dépasse la filia. C'est-à-dire que c'est ce qui me fait aimer l'autre, quand bien même l'autre est mon ennemi. Hein? Et évidemment, pour aimer l'autre, quand bien même l'autre est mon ennemi, ça suit aimer jusqu'à vos ennemis, que disait le Christ, il faut être porté par la grâce. Moi, spontanément, j'aime pas ceux qui ne m'aiment pas. Hein?
Et l'amour, c'est beaucoup affaire de volonté aussi.
L'amour, c'est la vertu de la volonté. Exactement. C'est la vertu de la volonté. Alors là, Ariane, vous voyez, il y a, au sein de la tradition chrétienne, il va y avoir deux grandes tendances. Ceux qui insistent sur la volonté comme l'organe du cœur. Et ça sera la tradition qu'on voit chez Bernard de Clairvaux, mais ça sera aussi la tradition franciscaine, où ce qui nous rend le plus à l'image de Dieu, c'est la volonté comme celle qui est capable d'amour et de charité. Jusqu'à un certain Hugues de Balma qui dira « L'amour lui-même est connaissance. » C'est-à-dire qu'il suffit d'aimer, alors l'amour de grâce, hein, il suffit d'aimer pour connaître. Lorsque j'aime véritablement quelqu'un, cet amour-là est un amour qui me fait aussi le connaître. Ça, c'est une traduction qu'on appelle la tradition affective de l'Église. Et il y a une tradition beaucoup plus intellective qui insiste sur le fait que ce n'est pas la volonté qui est l'image de Dieu en l'homme, mais l'intellect. Et ça, c'est la tradition dominicaine, avec, entre autres, saint Thomas d'Aquin et Maître Eckhart, dont je vous parlerai la prochaine fois. Et leur argument, que l'on trouve déjà chez Saint-Augustin, c'est qu'on ne peut pas aimer sans reconnaître et sans savoir ce qui est aimable. Mm-hmm. C'est-à-dire, la connaissance doit nécessairement précéder l'amour.
Ça semble évident, non?
Pas tant que ça.
Je ne sais pas, moi... On aime quand on ne connaît pas, on ne peut pas aimer.
Quand on ne connaît pas, on ne peut pas aimer. Mais là, si vous dites ça, vous restez au simple niveau de la filia.
Oui.
Quand vous ne connaissez pas, vous pouvez aimer, mais vous pouvez avoir un amour du prochain. Qui c'est le prochain? C'est celui aussi qu'on ne connaît pas. Et cet amour-là, c'est l'amour du Christ.
Oui. Pascal, tu me demandes de démarrer ma vidéo, mais je peux pas. Je vais vous dire pourquoi, parce que je suis affalée sur le canapé et tu sais.
Non, mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave.
Donc en fait, c'est pour ça que saint Bernard développe la vertu de l'humilité, parce que l'humilité, c'est la vertu de la volonté finalement.
Ouais.
C'est alors que, mais je ne vais pas empiéter sur le cours d'après, alors que Maître Eckhart développera la vertu du détachement, qui n'est même pas une vertu.
Ouais. Elisabeth, à ce niveau, les cours de théologie morale, c'est l'année prochaine, c'est le sixième cours au CIF, donc c'est là qu'on parlera des vertus. Est-ce que vous pouvez déjà rappeler pour tout le monde ce qu'est une vertu ?
Voilà.
Non, parce que vous utilisez souvent le mot et
oui.
on ne l'a pas étudié ensemble, je veux simplement le dire. Aussi, pour le moment, on n'a jamais parlé de vertu.
Alors voilà. Est-ce que je peux vous donner une définition extrêmement classique mais ah oui, qui est encore un, qui part d'Aristote. Et à mon avis, on n'a pas mieux fait que ce qu'en dit Aristote et la reprise par saint Thomas d'Aquin. Aristote distingue entre ce que nous avons à notre naissance, c'est-à-dire les qualités, les dons dont chacun est pourvu à sa naissance. Donc, on est avec certaines dispositions naturelles, chacun d'entre nous. On est, par exemple, avec des qualités physiques, des qualités spirituelles, mais aussi des dispositions, par exemple, on le voit très, très vite chez les enfants, des dispositions à la générosité, des dispositions au courage, des dispositions à la vivacité d'esprit. Ça, ce n'est pas une vertu. Ça, c'est une disposition naturelle. Ces dispositions naturelles, elles deviennent vertus du caractère lorsqu'elles sont entretenues par l'exercice. C'est-à-dire qu'on peut naître avec certaines dispositions, mais complètement les gâcher. Alors, ce que Aristote appelle vertu, c'est une disposition acquise à l'aide d'actes répétés de vertu. Oui. C'est-à-dire que c'est en posant, par exemple, des actes de courage que progressivement, au fil de ma vie, je vais avoir la vertu de courage jusqu'à ce que cette vertu devient tellement ce qu'on appelle un habitus. Un habitus, c'est comme une habitude, quoi. C'est comme quelque chose que j'ai tellement acquis, que j'ai tellement fait mien, que lorsqu'il s'agit d'être courageux, ça ne me demande plus aucun effort. Hein? Donc, c'est une disposition acquise du caractère. Alors, vous avez les vertus du caractère, mais vous avez aussi les vertus intellectuelles. La ténacité dans la compréhension, la mémoire aussi se travaille, et tout ça. Donc, c'est ce qu'il appelle les vertus, je ne vais pas vous assaillir de grands mots, mais c'est les vertus diagnoétiques, c'est-à-dire les vertus de l'esprit. Voilà. Donc, en fait, c'est une vision que j'aime beaucoup parce que ce n'est pas une vision d'un homme qui est en permanence dans la tentation. C'est-à-dire que pour Aristote, une fois qu'on a acquis une vertu, on l'a. Et l'acte de courage, l'acte de magnanimité, l'acte de rigueur intellectuelle, il n'en parle pas, mais bon, là on est en train de parler intellectuellement, donc autant prendre cet exemple là est tellement inscrite dans notre personne qu'en fait ça va de soi, ça coule de soi, ça coule de source. Et donc l'homme vertueux chez Aristote, qui culmine avec la figure de l'homme prudent, je vais vous expliquer après, n'est plus un homme tenté parce que ça fait partie de lui. Alors, ce qu'il appelle l'homme prudent, c'est celui qui, en outre, a l'intelligence de la situation. À savoir que il y a des fois où il vaut mieux privilégier telle vertu à telle autre en fonction de la situation. Vous voyez ?
Oui.
C'est-à-dire que la vertu, le développement d'une vertu morale présuppose aussi le développement de nos vertus intellectuelles pour agir et savoir réagir correctement lorsque la situation se présente. C'est-à-dire qu'il y a des fois où il faut que je me mette en colère, même si la colère n'est pas a priori une vertu. Alors ça, c'est repris par Thomas d'Aquin.
Oui.
Ça, ce sont des vertus naturelles, ce ne sont pas les vertus surnaturelles, comme la chambre, ce qu'on appelle les vertus théologales. Les vertus théologales, elles sont données par Dieu et elles supposent en fait le commerce entre notre exercice et la grâce divine. L'espérance, par exemple. La charité, la foi. Alors, je voulais vous faire un cours sur les vertus, mais comme vous allez avoir un cours de philosophie morale, je ne vais pas en prêter sur ce que...
Non, je pense que si vous avez prévu d'en parler, je pense qu'il faut le faire, puisque de toute façon, c'est quelque chose qui sera abordé, mais de mémoire pas approfondi, et c'est dans un an, on aura le temps d'oublier déjà. C'est en juin l'année prochaine.
Hein. Oui, mais Pascal, le truc, c'est que... j'aimerais vous parler quand même de Maître Eckhart.
Bien sûr.
Parce que c'est quand même mon auteur et parce que c'est sublime. Et j'aimerais vous parler des fins dernières, à savoir de la vision béatifique et de la résurrection de la chair.
Ouais. Ouais.
Donc, je crois qu'il faut faire le parcours. On est allé de la création, il faut faire le parcours jusqu'à la résurrection. Quoi. Voilà.
Excusez-moi.
Oui.
Bonjour Vincent. Bonjour. Diego.
Bonjour.
J'avais une question à vous poser par rapport à votre dernier commentaire. Entre la vertu et la grâce, tout à l'heure, la grâce permettait, je comprends de la grâce qu'elle permet de, notamment d'éclairer nos choix et de rendre notre libre arbitre par rapport aux choix qu'on est amené à effectuer. Et en même temps, là, en énumérant les différentes vertus, on a le sentiment que ces vertus permettent l'exercice pour faciliter les choix. Du coup, je me demandais quel était le lien entre la grâce et les vertus. C'est-à-dire que la grâce, on peut l'espérer, on peut l'attendre, et les vertus s'exercent. S'entretiennent. Est-ce qu'on peut considérer que par exercice et par entretien, on peut obtenir la grâce? Ce qui serait un petit peu peut-être contradictoire avec ce que vous disiez de la grâce.
La grâce, elle est donnée gratuitement. Donc, c'est ça le problème. C'est la question des œuvres. Hein. Aucune œuvre ne nous permet d'obtenir la grâce. Donc, c'est pas parce que... Ce n'est pas en se rendant méritant que Dieu nous donne la grâce. Ça fait partie de sa volonté à lui. Donc c'est comme si vous disiez, c'est le problème de Job. C'est le problème du juste qui souffre. Il a tout fait correctement et pourtant il souffre. Où est la grâce de Dieu là-dedans ?
Ouais.
Donc, il faut distinguer en fait ce que je disais de la vertu chez Aristote. Donc, Aristote, de toute façon, n'est pas du tout dans ce... Vous voyez tous à peu près qui est Aristote, hein, c'est un philosophe grec. Donc, il n'est pas du tout dans cette optique d'une réception de la grâce divine. Mais il y a quelque chose de juste chez lui, c'est-à-dire que par l'exercice, on peut développer certaines vertus. Ce que le christianisme montre, c'est que, et que les Grecs n'ont pas montré. Vous trouvez ça chez Augustin. Augustin dit, les Grecs ont trouvé certaines choses du christianisme, mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas trouvé? Ils n'ont pas trouvé l'humiliation du Christ. Dieu qui se fait homme. Donc, ce qui leur a manqué, c'est l'humilité, justement, et de montrer la fragilité de l'être humain.
La fragilité de ?
De l'être humain. Il y avait chez les Grecs une vision assez optimiste de l'homme. Et en même temps, Aristote dit très bien, nul ne saurait être heureux s'il est en mauvaise santé, s'il est pauvre et s'il est sans amis. Donc, il y a quand même des conditions matérielles à la vertu. Là où le christianisme vient compléter ce modèle-là, le christianisme reconnaît la faiblesse de notre volonté qui est due au péché. Vous vous rappelez, hein, c'est pas le libre arbitre qui est touché par le péché, c'est la capacité de mettre en œuvre notre libre arbitre qu'on appelle la volonté. C'est okay. La volonté qui est fragilisée. Et le christianisme prend acte quand même de cette volonté blessée. Je crois que chacun, on le sent ça dans nos propres vies. Hein. Et donc, Vincent, ce que je dis par là, c'est que, en fait, dans une optique chrétienne, on va dire, aide-toi encore, aide, ce que disait Ariane, aide-toi, le ciel t'aidera encore. C'est, en fait, c'est deux volontés qui agissent de concert. Oui. Mais je ne peux pas dire, Dieu, je suis méritant, donne-moi ta grâce. La grâce, elle est gratis faciens, c'est-à-dire, elle est donnée gratuitement. Ça va de pair avec l'idée que ce ne sont pas nos œuvres qui sauvent, notre foi qui sauve. Et donc, c'est cette permanence de notre foi, je ne trouve pas le mot adéquat, cette foi qui tient, excusez-moi, je ne trouve pas le mot adéquat, je tiens bon dans ma foi, je tiens bon dans ma foi, quoi qu'il arrive, c'est ça qui me rend digne de Dieu. Ce n'est pas mes œuvres. Parce que si je dis, tu vois, Seigneur, j'ai donné une pièce à un mendiant, j'ai bien fait mon travail, j'ai été gentille avec Bidule qui est méchant avec moi, qu'est-ce que je fais? J'ai une relation mercantile avec Dieu. C'est comme je disais à Dieu, Dieu, tu vois, j'ai fait ça, donc tu es obligé de me donner ta grâce. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Hein, je vous prends une analogie. C'est pas parce que je vais tout donner à un être humain que l'être humain va forcément m'aimer.
La ténacité.
Comment?
La ténacité.
La ténacité. Merci, c'est ça.
Oui, c'est ça.
La ténacité. Voilà. Parfois, je.
La ténacité.
La ténacité. La ténacité, la constance. La foi, c'est un pari, hein. C'est vraiment un saut qu'on fait. Et je vous dis ça, je ne vous dis pas ça du haut de mes connaissances ou du haut de mes diplômes. Je vous dis ça du haut de ma petite personne, c'est-à-dire du haut de ma vie. Hein. Voilà. Ça, faut que vous le sachiez, on est au CIF, on n'est pas en fac. En fac, je ne dirais jamais ça, mais je vous assure que c'est quelque chose que, comme vous, j'expérimente.
Vous êtes sur chemin, comme nous.
Ah bah oui. Ah bah oui.
Et je compléterais peut-être en disant que le jour où on découvre que saint Paul dit ça, le jour où on lit ça dans saint Paul, on peut prendre n'importe quel épître et on se rend compte qu'il ne dit que ça.
Ouais,
c'est vrai. Il le dit une page sur deux. Ouais. Dans toutes les épîtres de saint Paul, c'est peut-être même à toutes les pages. Moi, ça m'a pris des années et des années pour me rendre compte. Mais les œuvres ne servent à rien, on est uniquement justifié et sauvé par la grâce. C'est écrit à toutes les pages de saint Paul.
Alors, Maître Eckhart l'explique, mais je ne vous le dis pas parce que ça sera pour la prochaine fois. Maître Eckhart l'explique merveilleusement bien. Ouais, merveilleusement bien. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'œuvre. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut se comporter comme un goujat. Mais ça veut dire qu'il faut faire les œuvres à partir de notre foi. et non pas pour mériter quelque chose. En fait, finalement, Vincent, vous vouliez dire quelque chose?
Non. Merci.
C'est le sens plein de la vertu d'humilité chez Bernard. Et du connais-toi toi-même, ce que Gilson appelle le socratisme chrétien. L'humilité, c'est vraiment se placer dans la perspective de Dieu et élargir son horizon. Et en même temps qu'on se passe dans la perspective de Dieu, dont on ne connaît rien en plus, parce que c'est extrêmement difficile d'avoir la foi comme ça, surtout quand on souffre. On ne connaît pas les plans de Dieu pour nous. On ne sait pas ce qui va nous tomber sur le coin de la tête. Jean d'Ormesson n'arrêtait pas de répéter « Vivre est une catastrophe ». L'humilité, c'est ça, c'est-à-dire c'est accueillir la volonté divine en sachant que quoi qu'il vienne, de toute façon, il est là pour nous porter. Il ne nous abandonne jamais.
Et vous donneriez quoi comme définition de la grâce ?
Il y a plusieurs définitions de la grâce. La théologie de la grâce est très compliquée. Alors, il y a d'abord la grâce conçue comme remède au péché et elle s'origine dans la grâce baptismale, dans la grâce sacramentelle du baptême. Et il y a un rapport théologique entre ce qu'on appelle la grâce créée et la grâce incréée. La grâce, gratia gratis faciens, la grâce donnée gratuitement, c'est ce qu'on appelle la grâce créée, c'est-à-dire c'est un don que Dieu envoie à l'âme humaine pour surélever sa nature.
Pourquoi ?
Surélever sa nature.
D'accord.
Ouais. Donc, pour la faire passer d'une dimension naturelle à une dimension surnaturelle en vue de la compréhension le plus possible des mystères divins. Le plus possible, parce qu'on ne peut pas... de la compréhension de la... Pas de la compréhension rationnelle, mais de la réception des mystères divins qui sont principalement l'incarnation, la Trinité et la résurrection. L'incarnation, la Trinité et la résurrection.
La résurrection, oui.
Donc ça, on ne peut pas l'expliquer rationnellement. On peut essayer le plus possible de montrer que l'incarnation n'est pas irrationnelle, que la Trinité n'est pas irrationnelle, n'empêche que ça reste un mystère. La grâce donnée gratuitement est une créature, c'est-à-dire que c'est un don que Dieu crée dans l'âme du fidèle pour surélever son âme afin qu'il puisse accéder à l'intelligence spirituelle des mystères divins. Je suis claire ?
Oui.
Pour le booster ?
Comment ?
Pour le booster ?
Oui, voilà, pour le surélever en fait, pour lui donner une dynamique, pour le booster si vous voulez. C'est pas très théologique comme langage, mais ça me plaît.
Excusez-moi.
C'est vous.
La grâce incréée, alors qu'est-ce que c'est ?
Alors, la grâce incréée, une fois que la grâce créée est donnée à l'âme, la grâce incréée, eh ben, c'est la divinisation. C'est-à-dire, enfin, c'est une partie de la divinisation. C'est la présence de la charité en l'âme du fidèle, c'est-à-dire la présence du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit vient inhabiter l'âme.
Bien quoi ?
Le Saint-Esprit vient habiter l'âme.
Ah, d'accord.
Ah oui. Mmh.
Ça, c'est la grâce incréée, parce que c'est la théologie des missions divines. Mmh. C'est-à-dire que c'est un peu technique hein, comme truc. Mais de même qu'on devient fils à la suite du Fils et que le Père nous adopte à titre de fils à la suite de Jésus, en fait. De même, l'Esprit-Saint, c'est le mystère de la Pentecôte, l'Esprit-Saint vient aussi remplir de son amour l'âme du fidèle. Alors, c'est pas tout le temps. Hein. C'est pas tout le temps. Mais lorsque Jésus dit « Je vous envoie mon esprit », c'est ça que ça veut dire.
Grâce, oui.
Ouais. Ouais.
Donc, la grâce incréée, elle arrive, enfin, on ne peut la recevoir que lorsqu'on a déjà reçu cette grâce créée.
Alors, c'est la...
Probablement.
C'est ce que dit l'orthodoxie catholique. C'est-à-dire que la grâce incréée ne viendra jamais supprimer la grâce créée.
D'accord.
Alors que Maître Eckhart va dire autre chose, mais Maître Eckhart a été quand même condamné. Hein.
Ah oui.
Eh oui, il a été condamné.
Et alors cette grâce créée, moi c'est une question que je me pose souvent, est-ce que Dieu choisit les personnes à qui il veut donner cette grâce? Ou alors, est-ce que chaque personne doit, et ça, ce n'est pas en rapport avec les œuvres, mais doit se rendre disponible à recevoir cette grâce? Est-ce qu'il y a une élection ou est-ce qu'il y a une réception qui est, des conditions de réception qui ne sont pas forcément mises en activité par la personne elle-même?
Oui.
Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis.
Si, c'est très très clair. Mais Ariane, c'est très très compliqué.
Non, voilà, c'était une question comme ça. J'ai quand même l'impression qu'on a des dispositions ou non de réceptivité à la grâce qui sont des conséquences aussi des vertus d'humilité.
Et c'est-à-dire que la vertu d'humilité est développée elle-même grâce à la grâce.
D'accord. C'est le serpent.
Donc en fait, c'est un peu, c'est exactement ce que j'allais dire. Décidément, on a des bonnes expressions. C'est le serpent qui se mord la queue.
Okay.
Sinon, on tombe dans le stoïcisme. C'est-à-dire, le stoïcisme, c'est une conception d'un homme. Vous savez, c'est Épictète qui, Épictète esclave. Son maître s'énerve après lui. Lui le frappe à la jambe. Et puis peut-être tu dis, fais attention, tu vas me casser la jambe. Évidemment, ça ulcère le maître. Le maître lui casse la jambe et puis peut-être lui répond froidement, tu vois, je t'avais prévenu. Bon. Ça, c'est ce qu'on retient dans le langage courant, disant, il faut être stoïcien. Oui, mais ça présume des forces de la nature humaine. Qui est capable de faire ça? Alors que la grâce, elle est donnée universellement. N'importe qui ne peut pas être stoïcien. Donc, je crois qu'il y a aussi ce qu'on appelle la grâce prévenante. Et sans oublier que la création, c'est une première grâce. Hein? Donc il y a la création est une première grâce puisqu'il ne faut pas oublier que Dieu crée par amour ses créatures. Donc, il est présent en toute création. Et il y a aussi une grâce prévenante, qui est simplement l'amour de Dieu pour les hommes. Donc, je crois que tout le monde reçoit cette grâce, chrétien ou pas.
Et après, donc, ça, chacun la réceptionnerait comme il le peut, selon sa nature.
Selon son ouverture.
Oui, oui, d'accord. Selon son ouverture, selon ce que reprend Ariane, ce que disait Ariane.
Oui, c'est-à-dire après, à chacun de nous, après, c'est à notre libre arbitre d'agir. C'est à nous de faire l'effort d'une conversion. Dieu est là, Dieu nous précède. Il nous précède en tout. C'est le modèle de l'appel et de la réponse. Il nous appelle à nous d'y répondre. Mais il est donné.
Oui, mais on entend plus ou moins bien.
Oui, mais c'est notre rôle
de se mettre en disposition.
Et de prendre la disposition pour entendre. On entend plus ou moins bien. Pourquoi ? Parce que les trois quarts du temps, on est plein de nous. C'est notre
plein
ego.
De nous.
Ah ben oui. Ah bah oui, attendez, hein, pour la divinisation, Bernard, il a vécu des expériences mystiques, il le relate dans certaines de ses lettres, mais il a passé sa vie à mener une vie d'humilité extrême, une vie de pauvreté, il a mené sa vie pour Dieu. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas ?
C'est aucun rapport avec le texte.
Allez-y.
La difficulté dans l'existence de cette fameuse humilité et de cette fameuse humilité pour atteindre, je ne dirais pas la perfection, mais enfin, en tous les cas, une amélioration très nette du terrain de jeu, on va dire, et je sais pas l'orgueil dont je parle, mais je veux dire l'ambition.
Oui.
Et alors là, il y a un combat rude.
Tu parles de quelle ambition ?
L'ambition, quelle qu'elle soit, je parle de l'ambition, d'une ambition même, je pense, pour mes enfants. Pour mes enfants, je leur dis, c'est la seule chose qui m'intéresse, à vrai dire. Donc, je suis désolée de le rapprocher à ça, mais on peut y passer aussi, pour nous aussi. Je dis l'ambition, que ça soit une ambition sociale, c'est-à-dire, en fait, l'ambition de faire fonctionner la machine, plus fort, plus vite, plus dynamique. Je suis d'une famille d'entrepreneurs. Il n'y a que ça dans ma famille. Eh bien, je reconnais qu'il faut un dynamisme et pour mettre la machine en route, un dynamisme rare. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis quand on vous parle d'humilité, le cœur est important et c'est vraiment une priorité. Mais il faut quand même faire marcher la machine en tirant plus fort que d'autres. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ?
Oui. Il y a quelqu'un qui veut parler ?
Oui, moi je veux bien réagir par rapport à ça. Moi, je trouve justement que ça, c'est de l'ordre d'une grâce. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas cette vocation à pouvoir tirer les autres, guider les autres. Alors là, c'est dans le... Vous témoignez dans le cadre économique, mais il y a aussi, je pense, aux hommes d'église qui tirent leur brebis. Donc, je pense que c'est d'ordre de la vocation. Il n'y a pas, je pense pas qu'il y ait de gêne particulière à avoir cela, mais plutôt à me recevoir comme un don et de le ressentir comme peut-être un devoir. Un devoir vis-à-vis des autres.
Et vous croyez pas que l'orgueil est un moteur? Ça, c'est une vraie question pour moi.
Mais c'est une question extrêmement compliquée. Vincent, c'est Vincent Diego ou c'est…
C'est Vincent.
Oui, alors là, vous, excusez-moi, mais je vous dirais que vous avez une conception un peu irénique de l'ambition.
Ça veut dire quoi ?
Irénique, c'est pacifique. Pacifique. Je crois que la
irénique question... de la foi, vous voulez dire ?
Non, de l'ambition. De l'ambition. Ah. Je crois que la question que pose Evelyne, c'est comment concilier dans notre monde actuel. Mais ça, c'est que depuis que le monde est monde. Hein.
Oui.
Comment concilier une ambition, pousser nos enfants à être ambitieux, c'est-à-dire à la réussite. À la réussite sociale, à la réussite à avoir un poste, à avoir... Voilà. Et la vertu de l'humilité. C'est ça, Evelyne, non ?
Bien sûr.
Parce que si vous ne poussez pas vos enfants à être ambitieux, vous allez en faire des médiocres et vous allez en faire des faibles dans notre société. Et ça ne pardonne pas.
On ne peut pas leur limer les ongles ou leur limer les dents.
C'est pour ça que je suis partie d'abord du fait qu'il fallait vraiment distinguer ce qui était de l'ordre psychologique et ce qui était de l'ordre spirituel. C'est-à-dire, psychologiquement, l'ambition est indispensable pour se constituer soi. Parce que qu'est-ce qui se passe sinon ? Il se passe que sinon, ça crée des frustrations. Et les frustrations sont complètement délétères, elles sont destructrices. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est placer l'ambition dans son ordre propre et ne pas se laisser dévorer par cette ambition.
Oui, c'est toujours la différence entre le but et les moyens.
Oui, et c'est aussi le fait que la réussite sociale n'est pas le tout de la réussite de la vie humaine.
Non.
Voilà. Et ça, on peut très bien concilier. Et on peut aussi remercier et rendre grâce pour tel ou tel poste que j'ai acquis grâce à mon ambition. Mais l'ambition, c'est aussi se donner les moyens de son ambition. Donc, ça suppose le travail, le courage et tout ça.
Mais c'est aussi, il ne faut pas que ça soit au détriment de l'autre.
Absolument.
Voilà, l'ambition, l'orgueil, tout ça, c'est avoir à ne pas être au détriment de l'autre.
C'est ça tout le problème. Et moi, dans toute ma carrière, j'ai...
L'ambition et l'orgueil ne sont pas à mettre sur le même plan. L'ambition, c'est une dynamique positive. Et le problème de l'ambition, ce n'est pas tant l'ambition en tant que soi que telle, c'est l'ambition au service de quoi ? Dans quel but ? Voilà, dans quel but est-on ambitieux ? Ouais.
Mais je voulais dire que l'orgueil, c'était un moteur.
Il faut voir aussi. L'ambition est un moteur. L'orgueil, c'est collatéral.
Ça peut être négatif aussi.
L'orgueil, il met à part l'autre. Non. L'orgueil, c'est, il met de côté le prochain.
Evelyne.
En tous les cas, juste une chose. En tous les cas, depuis le début du cours, c'est le premier sujet qui lance une vraie dynamique. Enfin, une vraie. Pardon, mais on est tous concernés et ça doit nous titiller pas mal quand même. Hein.
Bien sûr, parce qu'on est resitué dans notre humanité et dans notre humanité. Evelyne, ne parlez pas d'orgueil, parlez d'estime de soi, c'est pas pareil. L'estime de soi.
Estime de soi.
Ah, c'est pas de l'orgueil, l'estime de soi.
Oui, d'accord.
Je vous donne la définition de Descartes.
Ouais.
Il appelle ça la générosité. Savoir s'estimer ni trop, ni trop peu.
Toujours la même chose.
Ni trop. La chose, c'est toujours le juste milieu. La générosité, la définition qu'en donne Descartes, c'est savoir s'estimer ni trop, ni trop peu. Donc, savoir, connaissance de soi, qu'est-ce que je suis? Quelle est ma place dans ce monde? L'orgueil, dans l'orgueil et dans l'ambition mal placée, il y a toujours une rivalité. Et je vous le dis, moi je viens de milieux terribles à ce niveau-là. Milieu universitaire, c'est terrible. Bon, je suppose que le milieu de la banque, ça doit être terrible aussi, et d'autres milieux peuvent être terribles. Mais l'ambition qui est une ambition au détriment des autres et qui se mue en orgueil, c'est ça le problème. Après, une ambition parce que l'on veut développer ses talents, ça c'est autre chose. Mais on est sur la corde raide. On est sur la corde raide parce qu'il y a toujours la tentation de faire mieux que l'autre et donc du coup d'écraser l'autre. On est sur la corde raide et c'est là où il faut prier et demander l'aide divine pour ne pas justement tomber dans le péché d'orgueil, dans le péché d'avarice, dans le péché d'avarice au sens où je retiens tout, je retiens tout pour moi. Ça c'est super difficile. On est tous des bébés là-dedans. Enfin, moi, je suis une petite fille là-dedans.
Alors moi, je voudrais juste réagir par rapport à cette dernière phrase. Par orgueil, on est amené à se manger les uns les autres pour faire sa place. À mon sens, l'ambition, la définition que j'en ai, c'est un désir ardent de réussir ce que l'on entreprend.
Oui.
Donc il y a effectivement de la noblesse. Et puis, à chacun son temps, dès lors que son travail est reconnu. Mais reconnu par qui? C'est là où je voulais en venir par rapport... si on n'est pas reconnu par ses pairs, alors on va se manger entre frères pour être le premier devant le père. Et je pense que dans les prières, on peut prier pour ceux qui nous dirigent et ceux qui nous gouvernent pour qu'ils se fassent correctement, qu'ils aient la clairvoyance de se faire correctement, de s'entourer correctement de gens ambitieux et pas orgueilleux, que ce ne soit pas l'orgueil qui les ait amenés au niveau de conseil. Voilà.
Pour faire le bien des autres, pour apporter quelque chose aux autres. Quelque
tout à fait. Chose. Mais ça, il n'y a que les pères qui peuvent décider, qui peuvent avoir cette clairvoyance-là, qui peuvent décider.
Les pères PERES ou les pères
PERES? Ah pardon, PERES. Quand je dis les pères, je pense, je ne suis pas militaire, mais dans le management de l'armée, chez les militaires, on voit bien que les entretiens annuels font vraiment essayer de décrypter vraiment la valeur des hommes. Et il n'y a pas dans la notation de sanctions, il y a juste une sorte de jugement au plus juste. Donc alors que dans le management des entreprises, peut-être ce dont vous faisiez référence tout à l'heure, là il faut montrer les dents, oui. Parce que justement il n'y a pas de clairvoyance des managers ou de ceux qui font progresser les carrières.
D'abord, on ne juge pas les hommes, hein. On juge le travail des hommes. On ne juge pas les hommes, premièrement. Oui. On juge sur le résultat des actions, on ne juge pas les hommes.
Je crois.
Enfin, on ne devrait pas. On ne devrait pas.
C'est plutôt on ne devrait pas, oui.
Voilà, on ne devrait pas. On ne devrait pas. Mais oui, Vincent, vous avez certainement raison. Oui. Donc, on peut prier aussi pour les hommes d'église, hein, parce que les hommes d'église ne sont pas à l'abri de.
Ouais.
Ils ne sont pas à l'abri de tout ça. L'église offre aussi des carrières. Hein. Donc, et puis, on peut prier pour nos jeunes, puis de toute façon, on peut prier pour beaucoup de choses.
Oui.
Qu'est-ce qu'il y a, Evelyne? On vous entend pas.
Je dis pour les mères de famille qui doivent driver tout ça.
Bah voilà. Oui, oui, oui. Oui, oui.
Les mères de famille sont des entrepreneurs.
Oui. D'autant plus, je suis tout à fait, je suis tout à fait avec, d'accord avec ce que tu dis, Vincent. D'autant que j'en ai six. Donc six, j'ai l'impression de tirer une espèce de charrette, de leur donner une espèce de et puis tout le temps, je m'arrête en me disant mais tu peux pas leur demander d'avoir comme ça les crocs parce que ça s'arrête où, comment il faut, enfin bon bref, c'est un dynamisme, il y a un équilibre qui est difficile à donner, difficile à transmettre, trop, pas assez, celui qui en a trop, alors bon, il faut le au contraire le calmer, celui, mais je dis en fait c'est la représentation de la société, une petite famille comme la, enfin une famille comme la nôtre, c'est, ça représente ce qu'on trouve dans la société partout, hein. Donc en fait, quand je parle de ce problème-là, je pense qu'il est universel. Dans une société professionnelle, on a les mêmes caractéristiques humaines et psychologiques. Et voilà.
C'est-à-dire qu'il y a une grande difficulté à éduquer les enfants et j'enseigne aussi à des jeunes, c'est des jeunes de 18 ans, c'est encore des enfants à 18 ans, on a encore du lait qui sort du nez. Bon. Entre une nécessaire adaptation à notre monde pour pas qu'il soit complètement bouffé par le monde, parce que sinon ils vont être malheureux, et leur apprendre à faire un pas de côté en se disant en reprenant ce que disait Jésus, je suis du monde, je ne suis pas dans ce monde.
Jésus, il faut pour dire à ces jeunes ou à un autre, pour leur dire tu vas pouvoir diriger si tu fais partie de l'élite. Tu vas pouvoir penser en faisant partie de l'élite. Et alors, à quel point c'est... Bon, enfin, le sujet, de toute manière, on ne va pas...
Parce que ça joint tout à fait l'humilité. Il y a des dirigeants qui sont extrêmement humbles, qui, en fait, c'est la métaphore du personnage. Qu'est-ce que c'est qu'il y a tout
l'humilité, personne. Je crois que c'est vraiment humilité. Mais estime de soi, c'est les maîtres mots.
Mais oui. Mais c'est-à-dire qu'on peut très bien accomplir nos fonctions et développer nos talents tout en sachant que ce n'est qu'une fonction, que ce ne sont que des talents, et je fais du mieux que je peux, et voilà, et déjà c'est énorme.
Parce que là, dans le fait de faire le mieux que je peux, il y a, moi, je, pour rejoindre, pour partager ce que dit Evelyne, je crois, c'est qu'il y a aussi la confiance à y mettre. J'entends dans ce qu'elle dit et ce qu'elle propose autour de ses enfants une espèce de, comment dire, de déplacement de fonction. C'est-à-dire qu'il y a un moment, les choses ont été transmises. Et après, il faut faire confiance. C'est-à-dire que là, ça sera le libre arbitre avec ses tels talents, de l'autre enfant avec ses tels talents. Et c'est comme pour la foi, il y a un fidéis à faire là. Il y a une foi, il y a une confiance à faire. L'humilité, elle viendra là.
Il y a un chemin. Mais après, Dieu pourvoit.
Ouais.
Il ne faut pas qu'on arrête de se transposer dans le cheminement de l'autre. C'est-à-dire qu'on lui a donné une partition et ensuite, c'est lui qui fait la composition de la mélodie.
Le bon entrepreneur, c'est pas celui qui peut le détecter chez... les talents chez un pour le mettre à la bonne place pour le rendre heureux.
Il y a un écho, c'est un peu.
Oui.
Pourquoi voit-on des fois des cadres supérieurs qui se mettent à devenir bouchers, jardiniers, surtout en ce moment?
Ma question n'était pas boucher ou charcutier, ça m'est complètement égal. Mon idée, elle est de dire, tu peux être charcutier, boucher ou je ne sais quoi, mais tu seras le meilleur. C'est ça, c'est là où là on estime de soi et peut-être de moi est peut-être un tout petit peu exagéré.
Mais c'est quoi, c'est quoi être le meilleur? Ça veut dire quoi être le meilleur?
Ça veut dire quoi être le meilleur?
C'est absolu.
C'est-à-dire celui qui choisira les meilleures viandes, qui aura les meilleures recettes, qui
sera toujours un meilleur.
Mais pourquoi être le meilleur?
On peut. C'était le départ, le départ de mon. De ma question à propos de l'humilité. L'humilité pourrait être simplement de satisfaire son ronron juste autour de soi, d'avoir une petite boucherie tranquille. Si tu crées une boucherie ou une charcuterie, tu dois créer 150 emplois, tu dois driver des petits jeunes pour que eux après puissent s'envoler pour pouvoir aller créer à nouveau quelque chose d'autre.
Il y a une différence entre vouloir être le meilleur et vouloir donner le meilleur de soi-même. Je crois que c'est peut-être ça en fait qu'on doit. Pour nos enfants, moi je suis un peu dans le même cas, j'ai des enfants qui sont en fin d'études et en début de vie professionnelle. Je crois que être le meilleur, c'est d'abord c'est une source de frustration parce qu'une fois qu'on est le meilleur, pour y rester, c'est que de la douleur. Alors que de donner le meilleur de soi-même, je pense à chaque fois que c'est une source de joie. Hein.
Enfin,
Ariane, voilà.
Ça place la barre moins haute et ça fait plus confiance de dire ça.
Oui. On peut être bon. Sans être le meilleur, on peut être bon. Hein.
On peut être heureux surtout.
On peut être à sa place.
On peut être heureux.
On peut être heureux, ouais. C'est ça,
ouais. Si c'est ça qui nous rend heureux, moi, c'est. Enfin, pour moi, ma vocation de famille, c'est de rendre heureux, enfin, de permettre à mes enfants d'être heureux, même s'il y en a un qui. Doit moins bien réussir, mais je ne sais pas ce que ça veut dire, moi, réussir par rapport aux autres.
Ouais, moi, je vous rejoins. C'est donner le meilleur de soi-même. Chercher le meilleur pour le meilleur, c'est casse-gueule. Hein. Puis d'abord, après, connais-toi toi-même, t'es plombé, là.
Oui. Et puis tout le monde n'a peut-être pas envie d'être le dans l'élite de l'élite. Hein.
Et puis le meilleur par rapport à quoi, quoi.
Ouais.
Oui.
Je peux rebondir là-dessus pour juste revenir quand même à quelque chose de plus central. C'est sûr qu'on ne va pas éduquer nos enfants en disant « Sois médiocre, mon fils, et ce sera parfait. » Il faut viser le haut idéal. Il faut viser le meilleur. Mais le meilleur, ça ne veut pas dire le meilleur de façon absolue. Le meilleur en disant « Donne le meilleur de toi-même. » Je pense que Evelyne voulait dire ça. Je crois. Essaie de le meilleur de toi-même et pour nos enfants et pour nous-mêmes à chaque fois. Ben, moi, à chaque fois que je fais un cours ou à chaque fois que vous êtes dans votre métier, j'essaie de donner le meilleur de moi-même et c'est pas toujours le meilleur cours qui soit. Il y a des enseignants qui sont nettement meilleurs que moi, mais j'aurais donné le meilleur de moi-même. Ça, d'abord. Et ensuite, par rapport à l'humilité, je crois qu'il est important de voir que de toute façon, le meilleur qu'on donne de soi-même, c'est toujours le meilleur qui est permis par Dieu. Ce meilleur, il me vient d'où? Bien sûr, il vient de mes efforts propres. Bien sûr, il met en branle mes vertus. Mes capacités d'intellection, mes capacités de volonté, mon courage. Mais il y a toujours l'humilité, c'est aussi de reconnaître qu'il y a toujours une grâce qui nous porte. Il ne faut jamais oublier ça. Parce que j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu à Bernard de Clairvaux. Bon. Bernard de Clairvaux, il a entrepris, il a fondé les Templiers, c'est la première milice de moines. Il a eu des responsabilités immenses. Bon, donc Bernard de Clairvaux aussi, il a donné le meilleur de lui-même, mais le meilleur de lui-même en resituant tout en Dieu, c'est-à-dire en sachant qu'il n'était que Bernard de Clairvaux. Alors on ne va pas dire ça à des enfants, parce que on ne dit pas ça à des jeunes, parce que ce n'est pas très pédagogue, mais je pense qu'on peut leur donner des germes pour qu'ils comprennent que ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et qu'en donnant le meilleur de soi, on rend grâce à tout ce qu'on a reçu. Et ça, c'est le début de l'humilité. Parce que d'où ça me vient, ça, d'être capable de donner le meilleur de moi ? Ça me vient d'un don. Et ce don, il est surnaturel.
C'est toujours l'affaire des talents.
Oui, développe tes talents. Voilà. Et tu seras jugé sur les talents qu'on t'a donnés et que tu as déployés, que tu as fait fructifier. Et c'est la métaphore de l'arbre et du fruit. Voilà. Donc, je ne pense pas que Dieu veut un homme complètement... Dieu ne nous appelle pas à être médiocre. Hein. C'est d'une exigence terrible, mais le message divin. Il ne nous appelle pas aussi à ne rien faire. Ce n'est pas du quiétisme. Ce n'est pas dire je ne me développe pas parce que ça serait un péché de constituer une personnalité. Non, c'est resituer toujours dans le fait que nous sommes des créatures. Et j'ai envie de vous dire, nous sommes des créatures mortelles. Bon, non, vous ne croyez pas ?
Si, et avec une ambition donnée par Dieu de nous voir poursuivre cette création.
Absolument.
Et pour laquelle il faut quand même être tenace et y aller, quoi.
Absolument, parce qu'on participe de la construction de la création faite par Dieu et du projet de Dieu. Chacun à sa place. Dieu a un projet pour le monde. Maître Eckhart dit il n'a pas créé le monde et après s'en est retiré. Il est toujours présent au monde. Et il nous laisse la liberté d'effectuer justement, de marcher vers les fins dernières. Donc chacun à son endroit, on a tous chacun à réaliser quelque chose. C'est pour ça qu'il n'y a pas de saut au métier. Et je crois que la valeur de ce que l'on fait, c'est l'amour que l'on met là-dedans. Alors pas l'amour au sens bébête du terme, hein, mais justement l'amour au sens de charité. Voilà. Bon, est-ce que tout ça, ça vous apporte ?
Oh ben oui, enfin non.
Moi, j'avais une petite question juste de vocabulaire. Je me demandais si les mots déification et divinisation voulaient dire la même chose.
Oui.
D'accord.
Oui.
Okay.
Oui.
Et Bernard de Molène, c'est pas celui qui a été brûlé, ou je confonds avec le chef des Templiers, il n'a pas été...
Ah bah si, hein.
Ah c'est ça, hein.
Oui. Mais pas par Bernard, par Philippe le Bel.
Oui.
Pas par Bernard de Clairvaux. Parce que l'histoire, l'histoire des Templiers, c'est qu'ils se sont enrichis et ensuite ils ont été suspectés par le roi. Donc après, il y a une histoire politique derrière. Et ça date du début du XIVe siècle, ça. Lorsque l'Inquisition a fait vraiment beaucoup, beaucoup de dégâts.
Relire les rois maudits.
Voilà. Relire les rois maudits. Où, vous savez, il y a beaucoup de... Il y a une grande mystique aussi qui s'appelle Marguerite Porrette qui a été brûlée vive.
Bon, 14e.
Oui, 1301 à Paris. 1301. Ouais. Voilà.
Je dirais simplement à Evelyne que c'est elle la meilleure, parce qu'avoir 6 enfants et pouvoir se taper les rois maudits en plus.
C'est en les attendant.
Ah oui. Moi qui n'en ai eu que 5, j'ai pas eu le temps de lire.
Donc la prochaine fois, je vous parle de Maître Eckhart. Et les deux dernières séances, on verra ce qu'est la vision béatifique et la résurrection de la chair.
D'accord. Et ce qui serait bien, c'est de mettre à chaque fois quand vous lancez la... quand vous lancez vos audios là, sur Internet, ça serait bien de mettre un mail parce que moi, du coup, j'ai complètement loupé parce que je n'ai pas reçu de mail pour annoncer qu'il y avait le texte et la vidéo sur Internet. Et je me suis dit, tiens, il n'y a toujours rien. Ouais, et en fait, j'ai appris à 13h que le cours était sur Internet.
Mais moi, je ne reçois pas de mail. Je regarde de moi-même dans la bibliothèque.
Moi, je n'ai pas forcément le temps qu'il faut pour regarder de moi-même. Donc, si j'ai un bip, parce que j'avais regardé en effet il y a 5 jours et il n'y avait rien. Donc,
mais attends, comment vous vous appelez? Parce que vous ne vous appelez pas Galaxie. Quel est votre prénom?
Je m'appelle Marie-Pia.
Ah, Marie-Pia, c'est vous, d'accord.
Oui, Marie-Pia.
D'accord, Marie-Pia. Mais
alors, je ne sais jamais à quel moment vous envoyez. En fait,
le mercredi. Ça serait
bien de le mettre.
Non, mais attendez, c'est pas normal ça, parce que normalement, voilà ce qui se passe. J'envoie tout à Anne, la secrétaire.
Oui.
J'envoie fichier PDF, fichier audio.
Non, mais ça, j'ai tout ça. J'ai tout ça quand j'ouvre le CIF, oui. Mais je ne sais pas à quel moment vous avez décidé d'envoyer les fichiers PDF et tout ça.
Je le fais le mercredi en général.
Ah ben voilà.
Mais c'est bizarre que Anne ne vous envoie pas un mail à toutes et à tous.
Non, rien du tout.
Ah ben je vais le faire moi.
Rien du tout. Après voilà.
Si ça ne doit pas être fait.
Bon, c'est à moi de me biper toute seule.
Non, Marie-Pia, si ça vous aide, ça me coûte rien de l'envoyer. Je croyais qu'Anne envoyait un mail à tout le monde.
En fait non.
Ah ben vous savez ce que je vais faire? Je vais non seulement envoyer ça à Anne et puis vous l'envoyez personnellement par
alors, bah non
ça, pourquoi
Anne le fasse, ou alors vous l'envoyez, mais si ça vous demande trop,
bah, ça me demande, ça me demande 5 minutes hein. Ce qui me demande beaucoup c'est les cours, mais vous envoyez un mail, ça hein, je vous envoie ça, vous faites bien de me le dire parce qu'en effet c'est pas tellement pratique. Ouais,
non, mais d'accord Elisabeth, dans la mesure où vous le faites le mercredi, on sait qu'à partir du mercredi il faut aller regarder. Et puis, par contre, quand vous rajoutez quelque chose, ça, moi aussi, je l'ai loupé, le rajouti, là, puisque moi, j'ai dû regarder jeudi ou un truc comme ça. Et puis, depuis, je n'ai pas regardé.
J'ai rien rajouté depuis mercredi. Hein.
Ben, si, la fin sur Pascal, vous avez dit, là, vous avez rajouté quelque chose.
Non.
Ça y était déjà?
J'ai envoyé tout en même temps.
Ah ben, là, pour le coup, j'ai loupé.
Non, j'ai envoyé tout en même temps. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer par mail parce que j'ai qu'à faire copier-coller et puis voilà. Ça sera plus pratique pour vous. D'accord?
En mettant d'où à où, vous, parce que souvent l'audio, par rapport au cours, il est coupé en deux. Moi, je ne vous écoute pas. Pour tout vous avouer, je ne vous écoute pas l'audio. Je photocopie tout de suite les pages et je les lis. Voilà. Donc, après, je ne sais pas à partir d'où et jusqu'à où vous allez faire l'audio suivant.
Alors, ce que je fais maintenant, c'est que j'ai compris ça. Donc maintenant, je ne fais l'audio que sur ce qui a été écrit. Comme ça, il n'y a pas de confusion.
Ah, super.
Voilà, pas de confusion comme ça.
Super, hein, merci.
Voilà.
Génial.
Je vais faire ça. Génial.
Et vous allez nous l'envoyer à tous ?
Bah oui.
Super.
Attendez, je vous l'envoie en CCI pour pas que tout le monde ait les mails de tout le monde. Et puis, je vais l'envoyer à Anne quand même pour qu'elle le mette sur le site du CIF. Et en plus de ça, je vous enverrai à tous tous les fichiers.
Hein? Donc, plus besoin d'aller se perdre dans la bibliothèque.
Comment ?
Plus besoin d'aller se perdre dans la bibliothèque.
Ben oui, mais il fallait me le dire avant. Moi, je n'avais pas compris ça. Ça me coûte rien de vous envoyer un mail, écoutez. Hein?
Super, super. Ben, merci.
C'est pas grand-chose.
Merci.
Voilà.
Oh, super.
Merci beaucoup, Elisabeth.
Merci beaucoup, Elisabeth.
Merci à vous, super. Avec plaisir. Et de la semaine prochaine, pas trop. Comment?
En fait, si, j'ai une question. Oui. Elisabeth, pourquoi est-ce que maintenant, on ne pourrait pas reprendre les cours sur place dans la grande salle? Il faudrait demander à la chef dans la grande salle avec une table sur deux.
Alors, on a éventuellement, comme il n'y a pas la grande chef là, je peux simplement dire que on va réévoquer, on a un bureau lundi prochain, donc on a une réunion de bureau par Zoom. Donc, vous voyez, même lundi prochain, entre nous, on ne se réunit pas physiquement, on va se réunir par Zoom. Ce que l'on cherche à faire, c'est la dernière séance en présentiel pour qu'on ait au moins une fois la chance de croiser Elisabeth. Moi, je ne connais pas Elisabeth plus que vous. On s'est vu, on se voit en vignette, là, les uns derrière les autres. Mais on chercherait à faire au moins un contact pour le dernier cours. Notre ambition est limitée à ça.
Mais c'est pas, ça pourrait se faire, en fait, là, avec une table sur deux.
On en parle la semaine prochaine.
Super.
N'oublions pas aussi que nous sommes locataires de la paroisse.
Ouais, et que le curé est très compliqué.
Ça, j'aurais pas osé le dire.
Il n'y a que la franchise qui sauve quand même. Et bien, voilà. Je sais que le curé est très compliqué.
Voilà. Et nous ne sommes que locataires.
L'avantage du Zoom, c'est qu'on voit les visages de tout le monde, alors qu'en présentiel, on ne voit que les cheveux. Hein.
On peut se mettre en cercle. Hein.
Il faut quand même faire passer ce qu'on dit par le filtre de Socrate. Est-ce vrai? Est-ce bon? Est-ce
voilà.
Hein? Quand même.
Là, ne fait pas de mal.
Et être bienveillant.
Et bienveillant.
Pour les cours, je voudrais dire, enfin Pascal, vous me reprenez, mais peut-être que les cours sont propriété du CIF aussi.
Pardon, je ne vois pas la remarque, oui. Oui.
Je n'ai pas compris,
Que oui. Elisabeth envoie directement les cours à tout le monde. C'est-à-dire que les cours sont peut-être aussi propriété du CIF.
Bah non, c'est Elisabeth.
Ah non, c'est à moi les cours.
Ah bah non.
Je sais rien, je ne sais pas, c'est une question. Ah non, non, Claire.
Propriété intellectuelle, évident.
Non, c'est une question.
Ah bon, non, d'accord. Les cours appartiennent effectivement aux professeurs. Simplement, nous ne donnons accès aux cours qu'à ceux qui ont participé financièrement. Je suis trésorier du CIF, donc je suis très intéressé par ces questions-là. Et donc, les cours appartiennent effectivement aux professeurs. Nous donnons accès simplement à ceux qui ont payé leurs cotisations. Ceci étant, si Elisabeth vous les envoie, je dirais il est de votre responsabilité personnelle de ne pas les faire suivre à vos copains. La réalité, c'est qu'effectivement, une fois que vous allez sur le site, si vous voulez télécharger et envoyer le lien, vous avez les mêmes possibilités. C'est une question de confiance entre nous. Mais Elisabeth envoie ses cours effectivement au fichier qui est beaucoup plus large que ce que nous sommes aujourd'hui. Non, c'est pas le souci. Hein. Le souci, c'est simplement qu'effectivement, pour le moment, Anne est revenue au bureau il y a une dizaine de jours. Elle n'était pas au bureau. Elle était confinée de son côté. Surtout qu'Anne a été malade, vous le savez. Elle a eu le Covid de façon assez violente et elle l'a encore un petit peu. Enfin, elle est totalement sortie du truc. Et vous devez savoir aussi, vous avez dû entendre dire que Anne nous quittait.
Ouais.
Après 14 ans, elle nous a donné sa démission parce que son mari est en retraite et la Bretagne l'appelle depuis longtemps. Voilà, donc nous avons une nouvelle secrétaire qui a été embauchée. Et qu'on...
Ah, ça y est.
Oui, et on l'a vu, et je l'ai vue par Zoom.
Là ah, aussi. Super.
Et elle sera évidemment par Zoom à l'Assemblée Générale.
Ouais.
Elle ne commencera son job qu'au mois de, qu'au 1er septembre, mais ouais. Déjà notre réunion de bureau, la dernière, et puis celle qu'on aura lundi prochain, elle a participé aux réunions de bureau, simplement pour essayer de prendre contact, parce que voilà une dame qui a été embauchée, elle n'a jamais vu personne.
Ouais, c'est vrai que ça n'a pas été facile.
Elle a confiance quand même, et vous avez confiance.
Voilà.
Et un bon porte-parole.
Comment s'appelle-t-elle, son prénom ?
Hélène. J'ai oublié son nom, depuis Morin, je crois. Enfin bon, Hélène. Voilà.
Super. Ah ben voilà, un gros soulagement.
Et je vous rappelle notre assemblée générale mercredi soir à 18h. Ah, par oui. Zoom. Vous avez tous été invités.
Ah oui, mercredi soir. Ah oui. Donc je revois ça dans mon truc. D'accord. Et la réunion de délégués est aussi par Zoom.
La réunion de délégués est par Zoom. Et la réunion de débriefing avec les accompagnateurs sera le lendemain par Zoom aussi.
D'accord.
Moi, j'en ai un peu marre des Zooms.
J'adore.
Zoom alors.
Non, non, mais c'est un moindre mal. Hein. C'est un moindre mal, mais. Ouais. Mais rien ne remplace.
Alors, on ne peut plus.
Rien ne remplace. J'aimerais.
C'est sûr.
J'aimerais vous voir, quoi. J'aimerais vous toucher, je ne pourrais pas.
Ça
ne se fait pas. Mais...
Ça fait des ordres. Ça fait des ordres.
Oui, ça fait des ordres.
Ça fait des ordres.
Eh bien, moi, je vais vous dire quelque chose. Je suis toujours dans mon sud-est de la France. J'adore. Je ne vais pas rentrer avant le mois de septembre. Je serai hyper heureuse de vous retrouver au mois de septembre. Mais je ne vais pas rentrer pour vous voir.
Ben, je vous comprends.
Et grâce à Zoom, j'ai pu maintenir le contact avec vous. Et pour moi, ça a été merveilleux.
C'est vrai. C'est
formidable.
C'est vrai. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une tendance dans l'éducation à privilégier. Il va y avoir une tendance à privilégier ce genre de communication.
Mais évidemment.
Par rapport au présentiel. Pour moi, un cours, c'est d'abord une présence. C'est pas.
Bien sûr.
Oui.
À Cambridge, ils ne font plus de cours l'année prochaine.
Ah.
Ce sera par. Mais il faut rapidement pas faire marche en arrière parce que les ambiances d'université sont très importantes. Après, ça veut dire tout le carnet d'adresses des étudiants. Ça veut dire il y a tout un relationnel quand même qui est très important. Je suis sûre qu'on repartira en arrière. On peut pas faire autrement. Exactement. Toutes les associations, tout ça, ça ne pourra plus pas marcher s'il n'y a pas la dimension humaine et l'ambiance et les soirées qui vont avec,
et
les voyages.
Toutes les premières années où il y a énormément de monde, où les gens ne peuvent pas intégrer les amphithéâtres, c'est peut-être pas mal aussi.
Ils feront leur grasse matinée plutôt que d'aller sur Zoom.
En tout cas, je vous remercie pour cette bonne ambiance. Là, je passe de bons moments.
Merci en tous les cas.
Merci Elisabeth.
Merci. Au revoir Elisabeth.
J'y vais. Je suis obligée d'y aller, mais à lundi prochain.
Aussi, merci.
Au revoir.
Merci.
Au revoir. Bonne semaine à tous. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir Pascal.
Au revoir Pascal.
Au revoir Pascal. Merci Pascal. Merci le trésorier.
J'arrête l'enregistrement.